autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Charlie Dupiau.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation pour plonger aujourd'hui dans les échos de notre passé. Grâce aux manuscrits, aux gravures, aux objets archéologiques, certains chercheurs travaillent à recréer les sons de l'histoire. Ceux par exemple de la ville de Paris au XVIIIe siècle, projet sur lequel travaille l'une de nos deux invitées, Mylène Pardoen, chercheuse au CNRS, conceptrice du projet Bretèse, on l'a dit même archéologue du paysage sonore. Et d'autres nous font entendre des sonorités musicales, cette fois de périodes bien plus lointaines, comme la civilisation de Mésopotamie, région historique du Moyen-Orient. C'est le cas de Nelle Ziegler, chercheuse en histoire ancienne et férue de mélodies anciennes également. Au croisement des sciences, de l'art et même du numérique, cette approche sensible de l'histoire intéresse de plus en plus de chercheurs et de musées. Alors comment se mettre dans les oreilles d'un autre siècle ou d'un autre millénaire? Ouvrez bien vos oreilles. Justement, chers auditeurs, nous allons les mettre à contribution pendant l'heure qui suit autour de la question « Pourquoi écouter le passé ?» Bienvenue. Alors, bonjour à toutes les deux et nous voilà tout de suite à Paris, place du Grand Châtelet au XVIIIe siècle, un peu avant la Révolution française. C'est un extrait du fruit de votre travail, Mylène Pardoen. Alors, qu'est-ce qu'on entend ?
Eh bien, on entend tout ce qui se déroule comme activité autour du Grand Châtelet, sur cette place qui s'appelle la Porte de Paris et qui recèle... un marché de plein vent, des activités liées à la grande boucherie, c'est-à-dire c'est plutôt un lieu qui va servir d'abattoir et de débit de viande. Et puis il y a également un marché aux poissons morts et une triperie, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'activités, sans compter la fontaine où on va s'approvisionner en eau.
Alors vous nous proposez dans une vidéo très sonore une marche virtuelle au cœur d'un Paris révolu, 6 minutes et quelques, pendant lesquelles nous partons donc du Grand Châtelet, qui était aussi une forteresse qui abritait le siège de la police, des cachots et même la première morgue de la capitale. Aujourd'hui, ce Grand Châtelet a été remplacé par la place du Châtelet à Paris. Nous allons aussi voir du côté de la rue de la Joaillerie, de la rue de la Triperie, des rues qui, si je ne me trompe pas, n'existent plus sous ce nom actuel. Pourquoi vous avez choisi ce quartier précis ?
Alors, ce quartier, il a été choisi parce qu'il représente 80% des scénarios qu'on peut trouver dans une ville, mais également dans le temps. Donc le but d'un chercheur, quand on travaille sur une matière qui est en exploratoire, qui est en découverte, c'est quand même de chercher à modéliser pour essayer de comprendre ce qui se passe sur une grande période ou localement de manière différente. Donc cette zone qui fait à peu près 50 hectares autour du Grand Châtelet représente 80% des scénarios que l'on peut trouver, à la fois qu'ils soient visuels ou sonores. Il faut essayer de se remémorer quand j'ai commencé à travailler sur la maquette, le sonore, ça ne parlait à personne. Donc je me suis appuyée sur du visuel et il a fallu trouver un curseur pour délimiter cette zone-là. Donc on a des activités marchandes, on a des activités artisanales, on a des activités de flux de véhicules. Et puis on a la Seine qui est présente, sans compter tout ce qui est architectural, qui est important au niveau des acoustiques.
Vous parlez de visuel, on parle là de gravure en l'occurrence.
Oui. Donc pour commencer à travailler sur cette zone-là, c'est vrai que le premier réflexe, c'est d'aller vers les tableaux, les gravures. Pourtant, il n'y a pas que cette documentation. On a énormément de textes et de documentation qu'on appelle hétérogène. Donc, on a du textuel. Dans le textuel, ça part de la littérature jusqu'aux sources administratives. Les registres administratifs qui sont très intéressants puisque ça nous permet de positionner finement les métiers, les artisans. Et puis on a dans l'iconographie, on a bien sûr les tableaux, les gravures, mais également tout ce qui est objet du quotidien, tout ce qui est plan et tout ce qui est devis de travaux. Donc un devis de travaux, c'est un objet mixte. Il est à la fois visuel, puisqu'il y a des croquis qui permettent d'expliquer comment ça s'articulait, mais il y a également du texte puisqu'on va avoir des mesures.
Vous utilisez en fait un grand panel de ressources documentaires.
Oui,
tout ce qu'on peut trouver
tout est bon et tout peut être exploité, puisque comme avant 1870, il n'y a pas de méthode pour enregistrer et diffuser le son, eh bien, nos anciens, ils l'ont intégré, ils l'ont inséré dans ce qu'ils avaient à disposition, c'est-à-dire des textes ou des images.
Ce projet est intitulé Projet Bretèze, d'après le nom d'un plan de Paris réalisé entre 1734 et 1739 par le cartographe Louis Bretèze. Alors, comment vous enregistrez, par exemple, les bruits de métiers qui sont aujourd'hui disparus ?
Alors, un bruit de métier qui est disparu, il n'est pas enregistré. Ça fait un trou, quelque part, dans la fresque. Mais on a de la chance, vraiment énormément de chance en France, c'est qu'on a un tissu artisanal très, très riche. Et par exemple, les compagnons du devoir, ils sont obligés d'avoir un double cursus, un avec les outils d'aujourd'hui et un avec les outils de l'ancien temps. Donc, ce qui fait que on va vers ces artisans.
Quels artisans, par exemple ?
Les tailleurs de pierre, tout ce qui touche au bois, les verriers, tout. Tous les artisans ont cette double formation.
Donc vous allez recueillir le son travail. Voilà.
On va chercher le son là où il se situe. Après, un métier qui a disparu, eh ben, il n'apparaît pas. Et ce qu'il faut bien aussi penser, c'est qu'on ne se focalise pas sur un métier. C'est-à-dire que dans notre panel de son, on ne va pas se dire « je veux absolument ce son-là ». C'est parfois des opportunités qui se présentent. Donc on ne perd pas d'énergie à chercher un son que l'on n'a pas immédiatement.
Ce qui est important, c'est l'ensemble.
Voilà, c'est l'ensemble, c'est la densité de son que l'on va retrouver sur un lieu donné. Par exemple, sur le Grand Châtelet, il y a quand même près d'une grosse centaine de sons. C'est ce qu'on a autour de nous au quotidien.
Alors, on va continuer notre voyage sonore dans le temps, dans une autre époque bien plus lointaine, celle-là, la Mésopotamie. Si l'on y avait vécu il y a 3400 ans, voilà peut-être ce que l'on aurait pu entendre.
Manutani yashasive Shinute suturi yahubugara Kudurnita shakilatsili shipri Umaru hatuari Vandanita hukuri kukurtisha
Cet hymne est l'hymne ougarite, d'après le nom d'une ville aujourd'hui disparue en Syrie, interprétée par le chercheur Joan Borel, d'après la transcription de la professeure Anne Kilmer. Alors, on a pu entendre ce chant dans une exposition Musique écho de l'Antiquité qui s'est tenue il y a 2 ans au musée du Louvre-Lens, exposition dont vous avez été l'une des commissaires, Nelle Ziegler. Alors, peut-être qu'on peut parler un petit peu de ce chant qui est unique.
Oui, c'est en fait le chant le plus ancien qu'on peut rechanter avec une vraisemblance assez grande. C'est un chant qui a été fait pour le culte, une demande de grossesse d'une femme à la déesse Nikal. Et ce chant était en langue étrangère pour les habitants d'Ougarit. Et on peut soupçonner que c'est la seule raison pourquoi il a été mis par écrit, parce qu'on chantait un chant qui n'était pas autochtone. On chantait un hymne qui venait d'ailleurs et pour bien le reproduire, on a dû le noter. Normalement, les gens notaient pas les chants par écrit, donc c'est vraiment une chance que nous avons de pouvoir le reproduire de cette manière. Donc on a le texte et on a les tablatures, les indications quelle corde jouer. Le problème est qu'il y a encore des petits débats, quelle signification tel mot a dans la langue ancienne, mais ce qu'on a entendu est un chant à retrouver maintenant assez grand consensus.
Tout ça a été mis à l'écrit sur une tablette, en fait ?
Oui, sur une tablette cunéiforme au XIVe siècle avant le Christ et retrouvée dans une des maisons à Ougarit pour pouvoir, avec d'autres textes, simplement les autres textes ne sont pas entiers. Et donc, ils sont notés en écriture cunéiforme et le chant lui-même est en langue ourit, donc cette langue étrangère. Mais les indications musicales sont en langue acadienne, qui était à l'époque la langue internationale parlé partout. C'est aussi des textes savants et tout ça.
Donc, alors, on peut comprendre ce qu'il dit.
Oui, ça,
dans cette
on
chanson.
Comprend tout.
Alors, il est rare de retrouver des notations musicales de cette période-là, vous l'avez dit.
Oui, c'est le seul texte que nous avons, mais les mots qui sont employés sont connus par d'autres textes. Donc, on n'a pas un chant avec les indications musicales, mais on a le vocabulaire qui va avec. Et ça, on sait depuis le début du deuxième millénaire que ce vocabulaire était un vocabulaire très spécialisé pour telle corde, pour tel mode, sur tel registre, etc. Mais donc, les musiciens apprenaient ça et utilisaient ce langage jusqu'à la fin de la civilisation mésopotamienne, d'après tout ce que nous savons. On n'a jamais eu des notes dans le sens que nous les comprenons.
Les donc, chansons étaient transmises à l'oral aussi.
Oui,
de maître à élève. Alors pourquoi, pour vous, c'est important d'approcher le monde de la musique dans la recherche?
En fait, à l'origine, je n'ai pas travaillé sur la musique elle-même, mais sur les musiciens. Et donc, nous avons parlé des artisans tout à l'heure. Moi, je travaille sur les artisans qui produisent la musique, parce qu'à l'époque, c'était considéré comme des artisans d'un très, très haut niveau social et intellectuel.
Donc, on sait qu'il y avait des musiciens.
Et j'ai édité une correspondance de ces musiciens avec les rois de Marie du XVIIIe siècle avant le Christ, ainsi aussi en Syrie, Marie. Et donc, c'est comme ça que je suis venue vers la musique, vers les instruments de musique, parce que nous avons des textes qui les décrivent, et surtout donc la vie sociale aussi de ces musiciens.
Et que nous racontent ces correspondances de musiciens ?
Ah, cette correspondance, elle nous renseigne sur énormément de choses, surtout les troubles matériels que rencontraient les musiciens, les troubles, donc lorsqu'ils avaient un problème pour avoir des apprentis, pour avoir des élèves, ils se sont disputés entre eux pour avoir les meilleurs. Donc, des choses qui nous rappellent beaucoup, plein de choses que nous connaissons encore aujourd'hui. Mais ça raconte aussi la formation. Ils disent qu'ils sont allés à tel endroit pour apprendre tel chant. Ils ont voyagé, ils ont eu des maîtres qu'ils peuvent mentionner, etc. Donc, c'est vraiment une source extraordinairement riche pour la vie des musiciens de l'Antiquité.
Mais les mélodies de cette époque-là, de cette civilisation-là, oui, restent inconnue, mystérieuse. Comment on contourne cette absence de traces? Comment on fait?
On contourne mal. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je ne focalise pas mon attention sur la musique en tant que musique, mais sur tout ce qui concerne la musique. Donc, par exemple, les instruments de musique.
Qui sont décrits parfois
des objets
dans certains
textes. Qui sont décrits par des textes, mais que nous connaissons surtout aussi de l'iconographie. Donc, nous avons des reliefs, des petits objets précieux qui reproduisent donc, ces instruments. Donc, ça, c'est une piste de recherche très, très riche.
On a peu de vestiges archéologiques, par contre, pour
très,
ces
très
instruments.
Oui, très, très peu. On a des instruments de musique. Les seuls qui sont magnifiques, d'ailleurs, ils sont au British Museum et à Philadelphie, sont des instruments du 24e siècle avant le Christ qui ont été retrouvés dans une ville d'Our et où on voit que c'est des objets précieux extrêmement chers, décorés avec l'or, avec toutes sortes de matières précieuses et qui étaient utilisés lors d'un enterrement. Donc, c'est pour ça qu'on les a trouvés. Pour le XVIIIe siècle, je n'ai pas un seul instrument, mais on a des représentations.
Mylène Pardoen, il y a des similitudes dans votre façon de travailler, d'aller vous documenter au plus près des textes?
Oui, et puis c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que quelque part, ces lettres de musiciens, elles présentent le quotidien des musiciens. Et moi, je travaille sur le quotidien du, non pas moins 18, mais plus 18e en France. Donc oui, il y a énormément de similitudes. Quand on commence à fouiller le passé, on ne peut pas se soustraire de certaines règles qui est que le passé, il a fait son œuvre. Donc il y a des éléments qui disparaissent ou qui s'estompent et sur lesquels, pour avoir ces traces-là, on ne peut pas y aller frontalement. Donc on va contourner le problème.
C'est l'art de la débrouille aussi.
Oui et non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on remonte dans le passé, on n'a pas accès à toute la documentation auquel on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on sort sa tablette, on met 3,5 mots, on a un flot d'informations, et d'ailleurs, trop d'informations tue l'information, puisque ça amène à faire des fake news. Nous, on a du papier, ou on a des tablettes, et eh bien, à partir de ces matériaux-là, on va essayer de comprendre comment s'articule la vie du musicien, comment il jouait. C'est le même problème, que ce soit au XVIIIe siècle, ou que ce soit au XIXe, que ce soit au 1er siècle après Jésus-Christ, ou au XVIIIe dans le passé, on est face à de mêmes problèmes.
Et cette recherche croise les disciplines, vous travaillez notamment avec des musicologues.
Oui, donc cette aventure de l'exposition du Louvre-Lan, c'était une très grande aventure pour nous tous, je pense. On était 8 commissaires au total, et des spécialistes du monde mésopotamien. Donc chronologiquement, avec les Égyptiens les deux plus anciens, et ensuite les Grecs et le monde romain. C'était très, très intéressant de développer ensemble un discours sur l'usage de la musique dans la religion, par exemple. Hein. Donc aussi des thèmes très variés comme les enterrements, toutes sortes de pratiques qui existent dans le monde antique et qui s'est perpétuée encore assez longtemps après. Mais vraiment, c'était très, très intéressant.
Et pour la musique de l'Antiquité égyptienne, on a plus de traces ?
On a plus d'instruments entiers. Donc, ils ont vraiment la chance d'avoir des objets à étudier directement. Moi, je ne peux utiliser que les représentations. Eux, ils ont des objets en bois et ils ont même un instrument avec les cordes qui sont d'origine. On a vérifié tout ça. Donc, ça, c'est vraiment magnifique. C'est des objets qui sont au Louvre, donc. Je conseille à tous les auditeurs de cette émission de s'y rendre tout de suite parce que c'est des objets magnifiques, vraiment.
Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes d'abord penché sur les musiciens, leur statut social, leur place dans la société, pour ensuite arriver aux mélodies et à l'idée de cette musique-là.
Oui, et à l'usage de la musique dans la vie quotidienne et aussi la valeur qu'on attribue à cette musique.
Et donc, qu'est-ce qu'on en sait alors pour la civilisation de
C'était vraiment un art qui était extrêmement apprécié, pas pour le plaisir, mais pour le culte, surtout pour la religion. On pensait à l'époque que les musiciens étaient indispensables pour tenir les divinités dans un état de bienveillance, d'aisance, qui fait que les divinités ne provoquent pas de malheur, parce que c'était un danger. Et du coup, on calmait les dieux avec des chants qui devaient du coup être transmis de génération en génération, et on chantait au premier millénaire avant le Christ les chants qui dataient du troisième avant.
La musique nous apprend autre chose.
Oui, mais ça montre à quel point on a investi dans cet enseignement, dans le personnel qui allait avec. Et donc, c'était vraiment un poste de dépense pour l'État qui était très fort, mais qui était valorisé.
Porte d'entrée vers des divinités ou bien vers des siècles révolus, les sons créent un fil intime qui nous relie, nous, à notre passé. Allez, on ouvre grand ses oreilles. Mylène Pardoen, nous voilà à nouveau à Paris, au XVIIIe siècle. On remonte le temps, mais cette fois près de la Seine. Est-ce que ce sont des oiseaux là qu'on entend ?
Oui. La Seine était très, très vivante et très peuplée par la faune. Justement parce que le quadrilatère sur lequel on travaille, c'est un quadrilatère qui est... Alors, il n'est pas propre, hein, puisque d'un côté, on a des égouts, de l'autre côté, on a tout ce qui est pelletier, enfin, tout ce qui est lié au travail du cuir. Donc, on va nettoyer ces cuirs et on va jeter les détritus à la Seine, ce qui fait que la faune, elle a de quoi manger. Donc, on se retrouve avec un quadrilatère qui est très vivant. Et il est très vivant aussi parce qu'il y a énormément d'artisans. Donc là, on n'a pas peut-être entendu, faites très attention, mais on a toutes les lavandières. On a donc le travail de la peau un peu plus haut. On a quand même ce qu'on appelle les moulins à blé, qui sont des bateaux moulins qui permettent de moudre le blé.
Qui sont au bord de la Seine ?
Non, ils sont sous les arches. Et voilà, tout ce quadrilatère de la Seine est vraiment très, très vivant. Sans compter, puisque sur mon quadrilatère, j'ai quand même la pompe Notre-Dame qui fait pas mal de bruit et qui permet l'adduction en eau de Paris. Hein.
Alors, quels oiseaux on entend ? Quelle faune ?
On a déjà toute la faune qui est liée aux canards, les grues, les cygnes, on a tous ces oiseaux-là. Alors je sens qu'arrive la mouette qui est présente. Alors oui, il y a des mouettes, mais ce n'est pas les mouettes d'aujourd'hui. Donc pour l'histoire, la mouette, elle n'arrive à Paris qu'au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Donc ça aussi, c'est une histoire à remonter le temps et à essayer de recouper les sources pour connaître la faune qui vit à Paris et qui évolue. Mais aujourd'hui, on va aussi avoir des évolutions d'oiseaux, puisqu'avec le réchauffement climatique, il y a des oiseaux qui vont disparaître. Il y en a déjà qui ont disparu parce que nos us et coutumes nuisent à leur présence. Mais il y a aussi une évolution parce que les masses d'air, elles sont chaudes et il y a des oiseaux qui ne viennent plus chez nous. Donc, quand on remonte le temps, on est obligé de faire attention aussi à quels sont les oiseaux, quels sont les animaux qu'on peut trouver à Paris. Mais on y trouve quand même des chiens, des chats, des
on retrouve encore aujourd'hui.
Oui. Non, il y a plus de vaches à Paris, je ne pense pas. Il y a plus de moutons, il y a plus de cochons. Mais on trouve des chiens, des chats, des bon voilà.
Vous avez enregistré donc un certain nombre d'animaux pour ce projet-là.
Oui, parce qu'à partir du moment où on trouve présence de ces animaux-là, eh bien, il faut les réinsérer dans la fresque en fonction de ce que l'on veut retracer et du moment de la journée. Quand on travaille sur une période comme ça, on va cloisonner une aire géographique, on va cloisonner une temporalité, et puis dans cette temporalité, moi, ça, c'est du temps long, hein, c'est à peu près 50 ans, c'est du temps court pour l'histoire, mais c'est du temps long pour nous. Et dans cette période-là, regardez ce qu'il en reste, c'est 6 minutes. On ne peut pas faire plus.
Alors certains sons, on en parlait, ont disparu, comme ces cris de mouettes. D'autres ont traversé les époques. Est-ce qu'il y a dans cette reconstitution sonore du XVIIIe siècle des sons qu'on entend encore aujourd'hui à Paris ? Dans le quartier du Châtelet.
Alors, à Paris, dans le quartier du Châtelet, non. Il n'y a plus grand-chose, parce que Haussmann a fait son œuvre, le présent a fait son œuvre aussi. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des klaxons, des véhicules qui ne sont plus hippomobiles, mais plutôt thermiques, parce qu'il n'y a plus pas beaucoup encore de véhicules électriques. Donc voilà, cette aire géographique, elle a été totalement modifiée. Et en plus, c'est une place ouverte, puisqu'il n'y a plus le Grand Châtelet. On a deux théâtres, mais qui sont vraiment éloignés, donc on n'a plus...
Ça veut dire qu'en termes d'acoustique, des choses ont changé.
Tout a été modifié. On était dans un creux. Ce qu'il faut bien penser, c'est que le Châtelet, il était dans un creux. Hein. Donc imaginez, comme si on l'a creusé au niveau du métro de la ligne 1.
Et cette pompe de Notre-Dame n'existe plus ?
Non. Et aujourd'hui, si on avait à la situer, eh bien, elle serait juste à côté des berges, des routes sur berge, hein, juste à côté.
Et comment vous avez fait pour reproduire son son ?
Alors là, on a toujours plus fou que soi. Hein. Moi, je suis déjà bien malade dans ma tête, mais eh bien, on trouve des gens qui ont recréé, qui ont restauré un moulin à l'ancienne, et puis on va capter ces sons-là. La seule chose qui manquait, c'était l'étiage, c'est-à-dire le flux d'eau qui passe sous la Seine. Donc, on est remonté, parce qu'il y a tout au XVIIIe siècle. Ils calculent tout, ils mettent tout en forme, et j'ai retrouvé l'étiage de la Seine, et j'ai fait une moyenne pour savoir à combien tournaient les aubes.
Les aubes ?
Les aubes des deux moulins, petits et gros moulins. Et en fait, j'avais une toute petite erreur, puisque dans d'autres documents, c'est une recherche qui avance tout le temps et qui n'est jamais terminée. Donc on est retombé sur des documents plus tardifs qui nous expliquent que le moulin tourne à peu près à 10 tours minutes.
Donc il faut aussi faire des mathématiques quand on s'intéresse aux reconstitutions sonores. Le passé dans le creux des oreilles, il résonne aujourd'hui dans les travaux de nos deux invités, les chercheuses Nello Ziegler et Mylène Pardouen, autour de la question « Pourquoi écouter le passé ?»
Oh.
est-ce que vous reconnaissez ce dont il s'agit, Nello Ziegler?
Non, mais je sais qu'il vous a été donné par mon collègue Sylvain
Perrault,
trop spécialiste
de
la musique grecque.
Alors oui, exactement, c'est le premier hymne delphique, donc à Delphes en Grèce antique, dont on a retrouvé une partition gravée sur la pierre du trésor des Athéniens au 2e siècle avant Jésus-Christ. Un hymne enregistré par l'ensemble Kérylos, ensemble très actuel, féru de musiques antiques. Alors justement, on va écouter tout de suite Sylvain Perrault, chargé de recherche au CNRS, qui étudie donc cette musique grecque antique. Il est joint par Caroline Fillette.
Dans la civilisation grecque antique, la musique est omniprésente. Il y a un théoricien du 2e siècle après Jésus-Christ, Aristide Quintilien, qui dit qu'il n'y a pas d'activité humaine sans musique. Autrement dit, tout se fait absolument en musique, donc on ne peut pas penser la culture grecque sans la musique. Alors pour la musique grecque antique, on a la chance d'avoir un peu tous les types de sources, c'est-à-dire à la fois les textes, donc les textes qui parlent bien sûr des musiciens, mais aussi de l'esthétique musicale, philosophie de la musique. On a beaucoup d'images, que ce soit sur vases, sculptures, monnaies, etc., qui nous représentent donc les musiciens et donc les techniques de jeu. Et puis, pour finir, on a également des vestiges d'instruments de musique. Alors pour ce qui est de la reconstitution de la musique, pour la Grèce, on a aussi des documents à notation musicale. Alors, pas des partitions à proprement parler, mais donc les Grecs avaient inventé un système de notation musicale, à la fois pour la musique chantée et la musique qui était jouée aux instruments, et une notation rythmique. Et cette notation, on la maîtrise aujourd'hui parce qu'on a une quinzaine de traités de l'Antiquité qui nous parlent de la théorie musicale, et quelques-uns en particulier présentent les signes musicaux, et donc le système théorique auquel ils appartiennent. Donc à partir de ça, on peut transcrire en quelque sorte les documents antiques dans le système de notation moderne.
Alors vous-même, lors de certaines conférences liées à la Grèce antique, il vous arrive de chanter a cappella des chansons et des mélodies datant de cette période. Que ressentez-vous? Quel type d'émotion cela vous procure-t-il? Et comment réagit votre auditoire?
D'abord, préciser que lorsque je présente effectivement ces chants au public, je le fais toujours avec, en expliquant la méthodologie et en montrant bien que ce qu'ils entendent, ce n'est pas à proprement parler de la musique antique. C'est une certaine interprétation parmi des milliers possibles d'un vestige qui est essentiellement mélodique et rythmique. Après, tout ce qui est nuance, expression, tempo n'est pas noté. Donc, c'est quelque chose que l'on va faire selon sa propre sensibilité. Ça fait quelque chose de dire qu'on peut chanter une partition, disons en quelque sorte, qui a 2500 ans ou 2000 ans d'âge. Un certain nombre de gens ont assez mal réagi, se disant « mais la Grèce nous a laissé de magnifiques sculptures, de magnifiques vestiges d'architecture, et c'est à ça que ressemble leur musique ?» Non, c'est pas possible.
Alors, on peut être déçu, ça veut dire, de la musique qui est composée comme dans l'Antiquité, Nello Ziegler.
Oui, donc je peux me féliciter que j'en ai pas tellement de chants.
Vous, il n'y en a pas beaucoup pour votre période
voilà.
À vous.
Mais non, c'est extrêmement intéressant, cette recherche sur la musique et aussi cette possibilité de la rejouer. Comme j'ai dit, pour la Mésopotamie, nous avons un seul chant, mais nous avons beaucoup d'hymnes par écrit. Donc, on a les textes de ces hymnes, on sait que c'était chanté et tout. Mais je trouve que c'est magnifique. Oui.
Et en Grèce antique, le statut social des musiciens est différent, évidemment.
C'est un statut très différent. En fait, ce qui caractérise la Mésopotamie, c'est tout est axé sur le roi. Et donc, les musiciens sont des employés par le roi, par son gouvernement. C'est des fonctionnaires. Hein. Donc, ils reçoivent des terres, ils reçoivent une fonction. Il y a une hiérarchie dans le chef musicien est un ministre. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très, très haut placé. Et on voit que tout ça est hiérarchisé. Chez les Grecs, il y a une culture de compétition qui est très différente de ce que je peux voir pour la Mésopotamie, qui me marque beaucoup. Hein. Donc cette volonté de jouer aux stars, d'aller dans les concours, ça, on ne voit pas pour la Mésopotamie. Et donc, c'est deux mondes très, très, très différents.
Et alors, il est difficile, bien sûr, de caractériser la musique grecque antique, puisqu'on parle d'une période qui s'étend du 8e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, en fait, c'est assez diversifié. Ce qu'on peut entendre.
On peut imaginer que pour toutes les civilisations, il y avait des spécialisations, des variations. Il y a beaucoup de civilisations qu'on ne pourra jamais écouter. Et donc là, on a plusieurs qui nous ont laissé beaucoup de vestiges. Mais Mais
le mystère,
le choix
pour certaines.
Des possibles est encore plus grand. Oui.
Alors, on va continuer notre exploration des sonorités du passé. Mais d'abord, petite pause un peu plus contemporaine, quoique avec Néandertal. C'est signé Mousse et Hakim. Et vous êtes sur RFI.
J'avais sur mes chemins des milliers de noisettes, personne n'avait planté pour piété privée. Le plat du jour en main et les desserts en tête. On était tous égaux, les animaux, les hommes, à croquer sans un mot, la vie comme les pommes, à fêter le soleil et les lunes étoilées. Néandertal, si tu voyais vieux locataire, dans quel état la planète Terre. Néandertal, cousin lointain, vieux solitaire, l'heure est fatale car tous nos mots sont planétaires. Ma grotte avec vue sur la mer, lampe à huile et charbon, à faire des traits au mur pour compter les saisons, remercier la nature. On croyait tous pareil, au dos du feu des reines, des ours et du ciel, des rivières et des chênes. Pas de temple à bâtir, personne à convertir. Néandertal, si tu voyais vieux locataire, dans quel état la planète Terre. Néandertal, cousin lointain, vieux solitaire, l'heure est fatale car tous nos mots sont planétaires.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Ces gens-là, ils peignaient, ils sculptaient, ils gravaient, mais que faisaient-ils? Est-ce qu'ils chantaient? Est-ce qu'ils dansaient? Est-ce qu'ils faisaient de la musique? Ça intrigue beaucoup de monde et on en est resté pour ces questions-là à une vision un peu, je dirais, primitive de l'homme préhistorique qui devait... Bon, certainement taper sur quatre cailloux avec ses peaux de bête comme habit, et puis pousser quelques cris, et puis pointe à la ligne, quoi.
La voix de Serge Maury, préhistorien reçu par Caroline Nachowski. Il a travaillé sur le projet Musique aux origines pour marier le patrimoine préhistorique de la Dordogne, pardon, où l'on trouve la grotte de Lascaux et les arts vivants, dont bien sûr la musique. Alors, se mettre dans les oreilles de nos ancêtres d'il y a 18 000 ans ou d'il y a 3 siècles, est-ce que ce n'est pas aussi se mettre dans leur peau pour essayer de mieux les comprendre ?
Au-delà de se dire de se mettre dans leur peau, parce qu'on ne pourra jamais être comme eux, ça nous permet d'avoir une lecture de l'histoire qui est complètement différente. Le prisme est différent. Je prends par exemple pour Brotès, puisque on avance dans notre recherche. Aujourd'hui, on va vers des techniques de spatialisation et on a la possibilité par nos technologies de virtualisation, de se positionner. Alors tout à l'heure, on était dans un chœur, hein, une procession. On aurait pu
avec
imaginer dire, voilà, moi je suis au milieu de la procession, voilà comment, en tant que chanteur, acteur, voilà comment j'entends mes contemporains chanter, voilà. Je vais pouvoir appuyer sur un bouton, voilà comment, en tant que spectateur, j'entends cette procession passée. Et voici, par exemple, je suis le prêtre, voilà comment je vais le ressentir également. Donc aujourd'hui, par ces jeux de modification, de la spatialisation soi-même, dans un espace de restitution, voilà comment on peut faire toucher du doigt l'histoire sonore. Et ça, c'est important, puisque pour le public, eh bien, il peut devenir acteur. C'est-à-dire qu'au-delà de nous, historiens, ou chercheur, eh bien, lui aussi, quelque part, il peut, à sa mesure, à son niveau, se mettre dans la petite peau d'un petit chercheur et se dire « Ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'on entend un discours. » Et je me trouve à 10 mètres, je n'ai pas d'amplification. « Ah oui, j'entends rien du tout, en fait, je m'emmène ce que je fais là, quoi. » On peut aller jusque-là. Ces simulations, elles permettent de toucher du doigt des situations qu'il est difficile de rendre si on n'est pas dans la simulation.
Mmh. Nelle Ziegler, qu'est-ce que ça vous inspire? En quoi c'est intéressant pour vous de se mettre dans la peau de musicien?
Oui, ça, je trouve ça très intéressant. Moi-même, je n'ai jamais essayé de jouer quoi que ce soit d'ancien, mais je suis plus intéressée aussi par les remarques de ma collègue sur comment est reçue cette musique. Hein. Donc, pas être dans la peau du musicien, mais dans celui qui écoute la musique, qui se trouve dans un lieu clos, ouvert, qui entend tout à coup des choses que normalement il n'entend pas. Et c'est ça qui m'intéresse le plus.
Et vous vous servez de relais.
Cette réception de la musique, oui. Mmh.
Autour de la question « Pourquoi écouter le passé ?», une question nous parvient pour vous, Mylène Pardouen, c'est celle de Vincent Nouiriga, journaliste au magazine Science et Vie.
On parle beaucoup de pollution sonore avec le bruit des autoroutes, des routes et même des bars dans les centres-villes. Mais à quel point ça pouvait être une nuisance? Quelles étaient les nuisances sonores à l'époque?
Alors, Mylène Pardouen?
Alors, c'est pas ni plus ni moins, c'est différent. C'est différent parce que aujourd'hui, on a des moteurs qui sont présents. Et ces moteurs ont la spécificité, c'est pour ça qu'ils sont créés, ils ont la spécificité de faire des bruits qui sont constants. Donc, on est usé par la constance du bruit. Quand on remonte dans le passé, le bruit, il est fort et puis moins fort. C'est-à-dire que quand il y a un carrosse qui passe, comme l'attraction, elle n'est pas constante parce que le cheval, il va KO K1. En plus, il y a des pavés. On va avoir des bruits qui sont forts, mais après, l'oreille va pouvoir se reposer. Donc aujourd'hui, on a oui, de la pollution sonore, mais elle est plus fatigante pour nos oreilles et pour nos corps. C'est-à-dire qu'elle est pernicieuse. Elle est sur des fréquences qu'on n'entend pas forcément et qui viennent nous scier. Cette pollution sonore, elle est aussi la résultante d'un urbanisme qui est fait de beaucoup de minérales. Alors avant, on avait des matériaux qui absorbaient le son. Aujourd'hui, on a beaucoup de verre. Et du son sur du verre, c'est une balle de ping-pong qui va partout.
Le verre des vitrines.
Oui, oui. Et donc, le son aujourd'hui, il n'est pas absorbé par les matériaux, ce qui fait qu'il rebondit. Et il nous use aussi par cet aspect rebondissant. Donc, on a deux types de pollution qui sont différentes. C'est pas, il y en a pas un qui est plus ni moins. Ils sont complètement différents.
Mais on avait aussi des nuisances sonores à l'époque.
Il y avait
des nuisances. Au XVIIIe siècle à Paris.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des nuisances sonores. Mais dans le XVIIIe siècle, comme plus tard, enfin plus on remonte le temps, c'est un repère. Ce sont des repères spatio-temporels. C'est-à-dire que quand il y a une cloche qui sonne, aujourd'hui, tout de suite, ça nous fait hurler et ça nous fait grimper au plafond. Mais dans le temps, on savait qu'il était telle heure et on savait où on se situait dans la ville.
Avec ces cloches-là. Alors, si vous êtes auditeur assidu de notre antenne, vous la connaissez peut-être. Et si ce n'est pas le cas, vous allez la découvrir. Monica Fantini est productrice à RFI à la tête du projet Écouter le Monde. Passionnée de son, elle en collecte sur toute la planète, notamment par le biais d'appels à contributions thématiques, avec l'idée toujours de les partager auprès d'un large public en libre accès, car pour elle, ces sons ont valeur de patrimoine. Écoutez-la.
Les sons, en fait, c'est la trace d'une époque. Si on pense aux voitures, par exemple, ou aux trains, les trains à vapeur qui n'existent plus, en fait, c'est la trace du temps qui passe, c'est la trace des choses qui disparaissent. Les sons disparus nous disent comment vivaient les gens avant nous. Et c'est ça, la valeur patrimoniale, c'est de savoir, d'essayer d'être dans les écoutes des autres, dans les oreilles des autres, dans la vie des autres. En fait, les sons, c'est la vie. La son permet de comprendre la vie, les sons de la vie quotidienne, je veux dire, les sons de tous les jours. Moi, ils m'intéressent beaucoup parce que ce sont des traces qui permettent de comprendre comment on partage l'espace public, comment on vit ensemble. Quand je reçois les sons des vendeurs de rue des Hanoï et leur façon de porter la voix dans la rue, quand je reçois les sons de la sirène de la mairie des Bobos du Lasso au Burkina Faso, qui effectivement n'existe plus, par exemple, voilà, en sont disparus, et qui sonnaient les matins et les soirs, et l'était en fait calé au rythme des heures de travail de tous les travailleurs de la ville, voilà, ça dit des choses, ça raconte la façon dont on vit.
Cette sirène, elle ne sonne plus?
Non, et je l'ai. Ah, voilà ce qu'on pourrait faire écouter. La sirène de Bobos du Lasso. tout passe par l'imaginaire. Les sons aussi, l'écoute passe par l'imaginaire, et puis par notre histoire, et puis par la mémoire, et puis par des souvenirs, et puis par des choses aussi inouïes et inattendues qui arrivent.
Alors vous avez une question pour notre invitée Mylène Pardouhen.
La question, oui, c'est serré, justement, quelle est la part d'imaginaire dans l'évocation du passé? Quelle place a l'imaginaire pour elle?
Mylène Pardouhen, on en vient là à la question de la subjectivité hein, de l'imaginaire dans notre rapport au son. Est-ce que vous pourriez répondre là-dessus?
Alors, on a tous une sensibilité. Hein, c'est-à-dire qu'on a un ADN sensoriel qui est rattaché à notre mémoire. Donc quand on entend un son, tout de suite ça va nous rappeler une petite histoire ou un moment particulier de notre vie. Et donc oui, l'imaginaire il se met en place. Et c'est ce qui est de plus compliqué quand on travaille à la restitution d'une ambiance sonore. C'est de neutraliser à la fois les témoignages qui nous viennent et de neutraliser cet imaginaire qu'on peut
que vous avez
laisser,
forcément
voilà
vous-même.
Nous-mêmes on a quelque chose qui on laisse une trace de nous. Le but c'est d'essayer de laisser le moins de traces possible pour que chacun des auditeurs puisse se retrouver dans notre imaginaire.
Et puis pour essayer d'être le plus objectif possible sur cette restitution sonore.
Oui, mais c'est de la sensorialité. Donc il y aura toujours une part de sensible qui restera. Enfin, moi, je ne suis pas dure comme le marbre. Hein, donc je suis obligée de laisser aussi mes oreilles vibrer et réagir à ce que j'entends. Et là, j'ai entendu plein d'éléments qui m'ont donné de l'appétit d'oreille et d'imagination.
On espère que nos auditeurs aussi.
Mais voilà, il arrive un moment où on peut quand même faire la part des choses et se dire, non, là, il ne faut pas exagérer.
Mmh. Alors, où s'arrête l'histoire et où commence l'art, en fait, Nadia Ziegler? Vaste question.
Oui, c'est en effet une question. L'art, vous voulez dire quand...
Bah, quand on est dans ces reconstitutions-là, sonores, musicales,
oui.
Et qu'il y a une subjectivité même dans le fait de reproduire.
Oui, je pense que nous produisons tous des approximations. Donc chacun, avec sa façon de travailler, va produire une façon de rendre aux autres personnes ce que nous croyons avoir compris. Et donc, donc c'est vrai que c'est... très difficile. Hein.
J'aimerais vous lire le message d'un auditeur, Abdoulaziz à Douala, au Cameroun. Pour ma part, on écoute le passé pour mieux comprendre le présent et pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Mylène Pardouhen, alors quel lien on peut faire entre votre travail, par exemple, au XVIIIe siècle, sur le XVIIIe siècle, et le présent?
Alors, quand on regarde le passé, quand on écoute le passé, ça nous donne vraiment des clés de compréhension sur ce qui se passe aujourd'hui. Et ça devrait nous donner des clés pour éviter, oui, les erreurs du futur. Alors, plus on va avancer dans le temps, plus on aura des outils de virtualisation qui vont nous permettre ces voyages dans le temps. Typiquement, là, on va travailler pour Notre-Dame, puisque en tant que
Notre-Dame de Paris,
on a été appelé à la rescousse hein, quelque part. En tant que chercheur, on fait partie du chantier CNRS Notre-Dame avec mon collègue Brian Katz, qui lui est acousticien pur. Hein, moi, je suis juste archéologue du paysage sonore.
Et c'est déjà pas mal.
C'est pas mal, mais bon, à tous les deux, on a à la fois la bouteille et puis le nectar pour faire réjouir nos oreilles. Eh bien, on a la possibilité de remonter le temps. Ces outils virtuels nous permettent justement de remonter le temps, de nous positionner, comme je vous disais tout à l'heure, à certains lieux bien précis qui nous permettent de rentrer dans la peau de quelqu'un, dans le passé, du présent. Puisque ce qu'on va faire, c'est un outil prédictif. Notre-Dame, elle est quand même malade. Elle a 3 trous dans la voûte. Et cette voûte, elle est essentielle pour faire résonner les chants, l'orgue. Et on peut même se dire que ce modèle acoustique, admettons, je ne sais pas moi, un homme politique ou un ecclésiastique a décidé d'ajouter une chapelle, eh bien, on pourra lui dire, OK, d'accord, nous, on va simuler cette chapelle. Donc, on va aller dans le futur et lui dire, voilà ce que ça va faire. quels sont les résultats sur l'acoustique. Donc, on peut avoir des modèles
pour potentiellement influencer la reconstruction.
Tout à fait.
Ça, c'est possible. Ça, c'est pas possible.
Particulière. Voilà. Nous, la seule chose qu'on dit, voilà, ça va sonner comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous prenez la décision que vous voulez. Mais nous, on montre la différence, les erreurs à éviter si on veut casser une acoustique, ou si on veut la modifier.
Nalle Ziegler, ces sons du passé, comment on les rend accessibles, compréhensibles aujourd'hui? Comment on leur donne du sens dans le présent? Évidemment, l'idée, c'est de les faire entendre. Oui. Auprès d'un large public, comment on fait? Alors, par des expositions?
Oui, je pense que les expositions pour le monde de l'Antiquité, c'est une très bonne façon de faire. Bon, on a vraiment fait un travail très intéressant pour nous, donc j'espère aussi pour le public, et qui permettait de montrer aux non-spécialistes ce monde sonore, ce monde voulu sonore, donc la musique de toutes ces civilisations de la Méditerranée qui étaient à l'époque. Donc là, c'est surtout par une description, par une mise en montre les objets, hein,
les perspectives, les instruments,
les représentations des musiciens, et ça permet vraiment aux gens de sentir quelle importance on attache à tout ça. Oui.
Et l'enjeu, évidemment, c'est aussi de sensibiliser à la question de nos oreilles, même aujourd'hui, Mylène Pardouen.
Oui, tout à fait. Alors, les artefacts aujourd'hui, ceux que l'on a, permettent justement de toucher largement le public, de sensibiliser sur, on a 5 sens. Alors, moi, c'est l'ouïe, mais on pourrait le faire avec l'olfactif. Hein. On a 5 sens. Ces sens, ils nous permettent réellement de vivre en collectivité. Si on se coupe de nos sens, on se referme sur nous-mêmes et la communication n'est plus possible. Ce qui fait que s'il n'y a pas de communication, on ne comprend pas son voisin et on ne peut pas travailler dans un ensemble. C'est un fractionnement de la société.
Et prendre conscience de l'importance des sons du passé, c'est aussi, évidemment, prendre conscience de celle du présent.
Alors, toutes les fêtes de la science que j'ai pu faire, c'était vraiment par ce biais-là, faire entendre au jeune public des sons du passé. Quand ils sortaient de ces expériences, ils redécouvraient les sons du présent.
Et d'ailleurs, on parle d'écologie sonore, hein, née dans les années 60, très populaire depuis quelques années, avec l'idée de sauver quelque part des sons de notre environnement qui pourraient être amenés à disparaître, ou qui ont d'ailleurs déjà peut-être disparu pour certains. Merci à toutes les deux, Mylène Pardouen, Nalle Ziegler, d'être venues dans notre studio pour nous faire entendre des échos et même des mélodies de notre histoire. Mylène Pardouen, nous allons mettre sur notre site votre fresque sonore, hein, la vidéo du projet Bretès que vous coordonnez pour les auditeurs curieux qui voudraient entendre cette reconstitution de Paris au XVIIIe siècle. Un grand merci également à toute l'équipe de l'émission, Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Vous pouvez retrouver, comme toujours, cette émission sur le site de RFI. Et puis, vous pouvez vous abonner, si vous le souhaitez, à notre émission Autour de la question sur votre application de podcast. Alors, demain, autre voyage. Que se passe-t-il dans la tête d'un chat? Qu'avons-nous en commun avec nos amis félins? Comment voit-il le monde et compte-t-il à nous apprendre? Rendez-vous demain pour mieux les écouter eux aussi. À demain! Monde Blog.